Moi, il m'a parlé beaucoup. Et surtout ce matin pour me fortifier pour venir au micro, parce qu'il a déjà parlé pour moi par rapport à ce que j'ai fait. Petite étude depuis 15 jours. Il m'a parlé vendredi, il m'a parlé encore ce matin. Alors en fait, c'est parti d'un verset de Marc 6, verset 9. Alors c'est Jésus qui envoie les 12 en mission. Je vais prendre à partir du 8. Il les enjoint de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie de bronze à la ceinture. Mais disait-il, chaussez-vous de sandales et ne mettez pas de tunique. Et moi, ce verset me parlait, je devais le méditer. Ne mettez pas de tunique. Alors je me suis dit, de quoi il veut parler? Bien sûr. Il fait chaud certainement là-bas. J'ai dit, il ne faut pas prendre de tunique. Mais très rapidement, ça m'est venu au niveau spirituel. Est-ce que nous ne portons pas des fois deux tuniques? Une tunique qu'on va dire pour l'église et une tunique qu'on mettrait dehors. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à l'église, on met notre petite tunique d'église et quand on est dehors, on reprend les habitudes du monde et notre tunique du monde. Peut-être nous n'avons qu'une tunique, celle dont nous avons été revêtus, alors il ne faut pas l'attacher. Nous avons toujours la tunique du monde, et alors il est temps de la changer. Jésus lui-même y avait une tunique, et elle était extraordinaire. Ce n'est pas la tunique par elle-même, c'est Jésus lui-même qui est extraordinaire. Et on peut le voir dans Jean 19, 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et ils prirent aussi sa tunique. Qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, sans couture, sans défaut. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Pourtant, cette tunique, elle n'était pas extraordinaire. C'est comme je l'ai dit juste avant, c'est Seigneur lui-même qui est extraordinaire. Mais en même temps, cette tunique reflétait tout ce que Jésus était, toute sa bonté, toute sa constance, tout ce qu'il était avant, puisqu'il est venu, il était avant, il est venu sur terre pour nous, nous qui sommes pécheurs. D'ailleurs, on a un exemple dans Luc 9, 29, où que pendant qu'il priait Jésus, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Dans Marc 9, 2, 3, ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle qu'il n'y ait pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Pierre, Jacques et Jean virent Jésus revêtu de son habit de gloire déjà là. La gloire qu'il a maintenant, mais qu'il avait également avant. Mais cette gloire qu'il a maintenant aussi auprès du Père. Ésaïe 64, 5 nous dit que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Là aussi, Ésaïe parle d'un vêtement, de notre justice, notre propre justice. La justice est représentée par un vêtement. J'ai repris une version, la version King James. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, King James. Elle nous dit, et là c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus fort. Mais nous sommes tous comme une chose souillée, et toute notre droiture sont comme des haillons répugnants, et nous nous fanons tous comme une feuille, et nos iniquités comme le vent nous emportent. Donc comme je disais, là, ça nous parle de notre propre justice, les choses que nous faisons nous-mêmes, elle est reflétée comme un vêtement. Et quand on veut s'approcher de Dieu, des fois on se dit bah, je vais faire bien maintenant, je vais venir à l'église, je vais être gentil. Et tout ça en fait c'est raccommoder c'est faire ramener des choses de nous. Peut-être pense-t-on pouvoir porter notre tunique actuelle et la raccommoder avec des morceaux neufs venant de notre propre justice pour être agréé par Dieu. Ceci en achetant notre paradis. Là-dessus, la parole est claire, non. Nous ne devons pas avoir une tunique recousue. Matthieu 9, 16. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau de drap neuf, car la pièce tirée sur le vêtement tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. Nous ne pouvons pas porter deux tuniques, celle du Christ et celle de notre ancienne nature, qui est celle du monde. Alors, où enlever cette tunique du monde et surtout où en trouver une neuve? Parce que ce n'est pas tout de se dévêtir, de dire je vais venir à me dévêtir, mais il faut également pas repartir nu. La réponse est à la croix. Là même où Jésus le fit, où Jésus a été dépouillé, où il s'est lui-même dépouillé pour nous, de ses vêtements, et semble-t-il retrouver complètement nu. Et cela pour nous, pour pouvoir, après avoir vaincu la mort et ressuscité, pour notre justice, être vêtu d'une robe de justice. Cette justice qui nous a gagnés à la croix. Jésus dit, dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, est-ce que déjà dans votre cœur, est-ce que déjà dans ton cœur, tu veux venir à Jésus? Si déjà tu fais cette démarche de venir à Jésus, alors il te demande de te renier ton ancienne tunique, ton ancienne personne. Comme José l'a encore dit tout à l'heure, je vais le redire plus tard, il fait toute chose nouvelle, neuve. Il ne repart pas avec des déchets, j'allais dire avec des déchets, je veux dire ce que j'allais dire, avec des déchets, avec des morceaux recousus. Il repart sur une base neuve. Et c'est Dieu lui-même qui fait ce nouveau. Nous ne pouvons rien faire. Celui qui venir à ma suite, qui se renie lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas dit qu'il se crucifie parce que ce n'est pas nous qui nous crucifions. Nous n'avons pas à nous crucifier, nous devons nous charger de notre croix. C'est Jésus qui s'est crucifié. C'est lui qui a pris nos péchés. Et c'est grâce à ça que nous avons cette robe de justice. Nous ne pouvons rien faire. On l'a encore dit aussi tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que j'étais... Vraiment, le Seigneur m'a dit, vas-y. C'est que... Il a tout accompli. Tout accompli. Quand on dit tout, c'est tout. Parce que notre tunique est sale et parce que notre propre justice ne peut pas nous laver. Jésus a gagné notre justice par son sacrifice à la croix. Lui, il est notre justice. Par lui, nous obtenons une robe, notre robe de justice. Par la foi en Jésus, comme il est dit dans Romains 3, 25 à 26, Dieu montre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 1 Corinthiens 1, 3, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Il a tout accompli. Et c'est en voyant cela d'avance qu'Ésaïe s'est exprimé en ces termes, et où notre louange devrait être aussi, c'est « Je trouverai la gaieté dans le Seigneur, je serai plein d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de justice. Comme le marié, tel un prêtre, se coiffe d'une parure splendide, comme la mariée s'orne de ses atouts. » Là, il parle de l'Église, la mariée. Nous faisons tous partie de l'Église. Le jour où le Seigneur viendra, je sais que Pascal prend souvent cet exemple d'aimant, je vais en rajouter une, la robe, et il prendra les personnes qui auront cette robe. Tu ne peux pas la chercher, la gagner, tu dois juste venir à la croix et demander pardon. Et Seigneur, lave-moi. Et donne-moi ta robe de justice. Donc, comme je vous disais juste un peu avant, pour porter cette robe de justice, il faut une nouvelle création, un homme nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, et il y a là du nouveau. On dit aussi, des fois, c'est une créature nouvelle. Alors, je vais vous lire, vous pouvez prendre également, si vous voulez bien, Éphésiens 2. Éphésiens 2, de 1 à 10. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés, auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair, nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. J'insiste bien sur le « et » de nos pensées. Parce que des fois, on dit « bah oui, on a péché avec notre chair », mais non, on pêche aussi, et beaucoup, avec nos pensées. Et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans un lieu céleste en Jésus-Christ. Pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Le verset qui m'intéressait, mais là tout parle, le verset qui m'intéressait c'est le suivant, c'est « car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous adonnions. Nous sommes donc l'ouvrage de Dieu, l'homme nouveau créé par lui. » Éphésiens 4, 17 à 24. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus vous comportez comme les gens des nations se comportent dans la futilité de leur jugement. » J'insiste sur le plus parce que c'est très important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi dans mes lectures, on prend des fois le verset complet, on prend le verset, on l'étudie, mais ces petits « et », ces petits « si », ces petits « mais », ces petits « plus » sont très importants. Le petit « plus », là, je suis allé voir la version, du moins le sens grec. Il dit, ça veut dire désormais, plus jamais. C'est-à-dire que nous ne devons plus jamais nous comporter comme les gens des nations se comportent dans la fuité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins, c'est bien lui que vous avez entendu. Et si c'est en lui que vous avez été instruit, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien. Là, pareil, je suis allé voir le sens du mot « vous défaire de l'homme ancien », c'est dépouiller, rejeter, se débarrasser. Si on se débarrasse, on ne le remet plus. On ne peut plus, on le jette. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. D'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Là encore une fois, on nous demande de nous revêtir, mais en fait, c'est aider l'esprit parce que dans d'autres lectures, on peut lire que c'est l'esprit qu'on a reçu. Est-ce qu'on a reçu l'esprit ? Mais c'est l'esprit qu'on a reçu qui nous aide dans tout ça et qui fait que, qui nous revêtit. C'est là qu'il dit d'ailleurs la sainteté que produit la vérité. Ta parole est vérité, l'Esprit Saint est vérité. Verset 24, j'avais dit. Donc voilà, et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Il y a donc un sens à faire. Il faut d'abord se dévêtir et ne plus vouloir se revêtir de ce qu'on s'est dévêtu et vouloir, celui qui veut venir à moi, vouloir se revêtir. Nous avons à nous défaire de l'homme ancien et de revêtir l'homme nouveau. Galates 6, 15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24, c'est le même, c'est certainement une autre version, mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Seigneur, nous demande donc de porter chaque jour notre croix. Romains 6, 6 nous dit, nous sommes crucifiés avec le Christ. Ça s'est produit. Ça s'est produit. Spirituellement, ça s'est produit. Nous étions avec le Christ crucifié. Romains 13, 14 nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Se revêtir du Seigneur Jésus. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et c'est là où il ne faut pas se ressalir. Tâcher notre belle robe de justice qu'a gagnée Jésus à la croix. Les personnes qui n'auront pas cette robe de justice seront mises dehors. Ça fait mal à entendre. Mais pourtant, comme le dit aussi souvent Pascal, c'est pas gris, c'est noir ou blanc. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous prévient. Le Seigneur est patient. C'est une chose qui m'a fait comprendre dans cette étude. Le Seigneur est patient et très patient. Nous avons un exemple dans Matthieu 22. Donc c'est Jésus qui nous donne une parabole. Parabole des noces, on va la lire complet, bien sûr, il y a un verset qui parle. Il s'en va du règne des cieux comme d'un roi qui faisait les noces de son fils. Il envoya ses esclaves appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Celui qui veut venir à moi. Il envoie encore d'autres esclaves en leur disant, allez dire aux invités, j'ai préparé mon déjeuner, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus. Tout est prêt, venez aux noces. Ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère et envoya son armée pour faire disparaître ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses esclaves s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent mauvais et bon, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ? L'homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains. Et chassez-le dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Je ne sais plus pourquoi, mais j'avais réinscrit certainement une autre méditation, une autre étude. On peut dire aussi, mais car beaucoup sont invités, mais peu sont élus. Donc là, la Bible nous exhorte de ne pas être trouvés nus. Si nous nous sommes dévêtus, il faut être vêtu du Christ, de tout ce qui était lui. Et la Bible nous exhorte qu'il ne faudra pas être trouvé nu. Dans toute cette méditation, elle m'est venue, ça va faire plaisir si je peux dire à Pascal, parce qu'il en parle souvent, Apocalypse 3, la lettre à l'église de Sardes. Alors Jules César décrit: voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu es réputée vivante, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc que tu as reçu et entendu, garde-le. Rappelle-toi donc que tu as reçu et ce que tu as reçu et entendu, garde-le et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu en as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Ce que l'Esprit dit aux églises, pardon. Je suis occupé de penser à ce que je vais dire après, c'est pour ça. Je ne suis pas occupé de remettre en cause, je ne suis pas occupé de remettre en doute votre salut. Pas du tout. Si tu es venu à Jésus, si tu as, tu t'es repenti. Alors Dieu t'a écouté, la vraie repentance. Et il t'a vêtu de cette robe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas la salir. Bien sûr, aussi, il faut faire très attention d'être vêtu de cette robe. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup parlé, enfin du moins que j'ai, ça m'a appuyé, c'est: rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Apocalypse 16, 15. Chapitre 15 nous dit: je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas marcher nu, pour qu'on ne voie pas sa honte. Apocalypse 19, 6 à 9. Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux et comme le bruit de forts tonnerres qui disaient: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, a instauré son règne. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a donné d'être vêtu de fin lin resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Il me dit, écrit: heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Quelle différence avec la parabole. Là, nous dit que nous sommes bénis, nous sommes heureux, bénis. On a un écho de Ésaïe qui disait qu'on est transporté à l'allégresse. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir pu recevoir le Christ? Est-ce que vous êtes heureux? La Bible nous exhorte également dans d'autres endroits d'être prêts, de veiller, notamment avec la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges pensaient être prêts. Pourtant, il y en a que 5 qui sont rentrés. Elles étaient prêtes. Alors veillons et prions. Faisons très attention parce que nous avons reçu quelque chose de merveilleux. J'en prends moi-même pas encore toute l'importance, je dis sincèrement, de ce que Christ a fait à la croix. Un peu la foi, comme le chant le disait tout à l'heure. C'est au long des années qu'il nous travaille et qu'il nous apporte les choses. Je vous ai dit cette. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Une petite note que j'ai trouvée dans la Bible Summer, elle dit: le salut est un don de Dieu, qu'il appartient aux croyants, à chaque croyant, de travailler, entre parenthèses, comme une terre féconde, pour lui faire porter beaucoup de fruits. Cela signifie en particulier mener une vie digne de l'Évangile. Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, je lis rechercher la paix avec tous. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'amour. Tu détestes ton frère qui est à côté de toi, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Romains 6, 19 à 22, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Un peu plus loin, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. On en a parlé aussi ce matin. Je ne sais plus si c'était dans une prière ou dans un chant. Qu'on est esclave de Dieu, mais ce n'est pas l'esclave avec les chaînes. C'est un esclave par amour. C'est un esclave par amour. 1 Pierre 1, 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformant pas aux convoitises d'autrefois pendant votre ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, pareillement, soyez saints dans toute votre conduite. Corps et pensée, comme j'ai lu tout à l'heure dans Philippe 2, Éphésiens 2, pardon. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde. Et le prince de l'autier de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. Vous aussi, pareillement, soyez saints dans toute votre conduite, corps et âme. Une petite citation de Austin Sparks, que j'ai, je pense, avoir trouvée dans un livre là-bas. Qu'est-ce que l'homme? J'ai pas noté d'où je l'ai repris, mais c'est Austin Sparks. La sanctification, bien sûr, c'est pas de la parole, mais Austin Sparks, je pense que on peut quand même écouter. Ça va? On va valider. Adjugé par Daniel. La sanctification n'est que la continuation de la régénération, de la nouvelle naissance. Parce que la régénération n'est que le commencement de la sanctification. Elle doit être considérée dans la même sphère que la nouvelle naissance. C'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau et nous avons à continuer cette sanctification. Nous avons à continuer à rester purs parce qu'on a été purifiés et nous avons été lavés par Jésus-Christ. On ne peut pas se laver nous-mêmes. Tout à l'heure, je pensais, j'ai été un petit peu perturbé par mon petit. Je pensais aux jaguars, mais en fait, non, c'est le léopard qu'on parle également. Que le léopard ne peut pas enlever ses taches. Mais seul Jésus nous lave. Il nous a lavés, mais il faut l'accepter. Venez, celui qui veut me suivre. J'avais pas prévu, mais toute cette semaine, ça m'a parlé, et encore maintenant, à faire un appel à tous ceux qui n'auraient pas encore vraiment dit « Je veux te suivre ». de regarder, bien sûr, on dit de regarder, Jésus est mort, oui. On l'entend peut-être depuis beaucoup d'années. Jésus est mort, oui, je sais. Il est mort à la croix, oui, je sais. Tu vois la croix, oui, je vois. Mais Seigneur nous demande de regarder plus haut, pas notre hauteur de vue. Regardez plus haut. Il a dit, comme le serpent d'airain a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque regarde vers lui soit guéri. Où est la vie éternelle? Peut-être que ça fait peut-être 1 an, ça fait peut-être 2 ans, ça fait peut-être 10 ans, tu es là. Et que ben c'est bien, on peut pas dire que c'est pas bien. Mais que tu n'as pas encore vraiment regardé vers le haut. Parce que Dieu n'est pas là, Dieu est là. Et il te demande de regarder à lui, à ce qu'il a fait à la croix. Alors j'en suis à la conclusion. Comme conclusion, j'ai lu cette semaine, je me dis que c'était une très bonne conclusion. Bon, j'en ai. Allez, j'ai 3 conclusions. C'est difficile de choisir. Alors, on va lire 2 Pierre 3, qui me semble résumer un peu tout ce que j'ai dit, en fait. Bien-aimés, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris en tous deux. Je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence. Et je me suis dit, tout ce que je veux dire au micro, on l'a déjà entendu, mais Pierre le dit aussi, qui fait appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, pour que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. Vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En fait, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau et se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu, et que par cela même le monde d'alors disparut, submergé par l'eau. Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde. Le Seigneur nous aime. Mais que tous accède à un changement radical. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devrions-nous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et piété, et avec piété, qu'il faut vous attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. Où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Ainsi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres Écritures pour leur propre perdition. Puisque vous êtes prévenus, bien-aimés, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui la gloire, maintenant, jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Deuxième conclusion, comme je viens d'entendre. Non, je vais laisser ce verset comme une prière. Si vous voulez prier pour moi, une chose pour moi, c'est de pouvoir justement m'exprimer dans la louange, dans la prière, peut-être pas la louange, mais dans la prière, j'ai beaucoup de mal à prier à voix haute. Frères et sœurs, si vous pouvez prier pour moi, pour ça. Je suis émerveillé quand j'entends les frères et les sœurs, comment ils prient. Émerveillé. Je sais que Stéphane en a déjà parlé aussi, mais c'est vrai. Enfin bon, nous sommes ensemble une église. Le Seigneur a donné des noms différents, des dons différents à certaines personnes. Peut-être qu'il a donné un don de prière à des personnes, peut-être qu'il a donné un don de... C'est pas peut-être, c'est sûr, des dons de prophétie et des dons de l'enseignement, etc., etc. Ils sont tous marqués là. Je les ai oubliés. Donc je remettrai ça comme une prière. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ta grande compassion. Amen. Daniel 9, 18. Merci.